Radio G 120.5, bienvenue à l'émission Imaginaire, la 15e ou la 16e, j'ai perdu le compte, mais on est dans ces eaux-là.
Oui.
Avec Romain, Article et Patrice ce soir.
Bonsoir.
Une émission pas mal musicale, en fait, on a décidé de varier un petit peu les plaisirs, on va évidemment discuter, un peu quand même, mais aussi en profiter pour vous passer une sélection musicale, alors là pour le coup assez éclectique, qui va du jazz éthiopien à l'indus, en passant par le hardcore et le rock, voire du blues, même si on a le temps. Donc voilà, de quoi un peu ravir les oreilles.
On commence avec la chronique.
Oui, quand même, il y a le dinosaure, il ne chante pas. Patrice non plus ne chantera pas, nous fera sa rubrique scientifique.
Si, il chantera.
Il chantera aussi, voilà.
Bonjour les Kaouettes. Aujourd'hui est un jour feste pour la démocratie des sapiens. Il est de fait que les ridicules mammifères bipèdes dotés de cerveaux structurés que vous êtes vont être obligés de se rendre compte que leurs hommes politiques sont corrompus, et mieux encore, que quels que soient les sacrifices infligés aux autres, leur morgue est sans limite. Ils promettent que tout ira mieux, que non, ils n'ont pas planqué un seul écu dans une île paradisiaque fiscalement, que oui, ils se lancent dans le commerce d'œuvres d'art maintenant, que non, ils n'ont pas répandu de leur liqueur séminable sur la robe noire de la stagiaire, que non, ils n'ont pas tenté de jouer le stégosaure à deux dos avec la femme de ménage. Que non, le nuage de Tchernobyl a habilement évité la France. Que oui, le chômage ne résistera pas. Un doctorat de prometteur en chaîne. Enfin, du coup, on pourrait douter, hein, pour les médicaments génériques, pour les OGM, pour la liberté de la presse et de la justice, pour la raison des diverses interventions militaires dans les anciennes colonies de l'Empire, pour la raison de la non-intervention dans d'autres pays de l'Empire, pour ne pas corréler délocalisation, spéculation et chômage, pour les montées étonnantes des maladies génétiques, cancer ou Alzheimer, pour ouvrir à tour de bras des restaurants de junk food, pour augmenter le rythme de la télé-réalité. Que font les meilleurs écrivains de la littérature de genre? Je vous le demande. Que ce soit en science-fiction ou dans le polar, il se contente de baigner dans l'actualité. Il est inutile d'aller beaucoup plus loin. Et jouer avec? On peut jouer avec? Alors lisez, ou je vous bouffe.
Complètement énervé, chromosome sur Radio G, avec Force Fed Lies, des mensonges qu'on voudrait nous faire avaler.
D'accord.
C'est un groupe de crust punk. Alors, le crust punk, c'est un petit peu après, comment je dirais, l'anarcho-punk de Crass, et un petit peu avant le grindcore de Napalm Death. Il y a encore des groupes qui pratiquent ce genre de musique aujourd'hui, comme Chromosome, K-R-O-M-O-S-O-M, un groupe américain, donc dont on vient d'écouter le morceau, donc Force Fedlaes, extrait de la compile Live Forever, qui compile leur premier EP. C'est sorti sur le gros label metal Southern Lord.
Et donc ça, c'est une production récente d'un, d'un groupe qui se réclame d'un courant plus ancien.
D'il y a une trentaine d'années quand même.
On enchaîne avec ma rubrique, parce que moi je voulais vous causer d'Ethio Jazz. Donc ça n'a pas tout à fait grand chose à voir avec le grindcore, mais ça reste de la musique, donc on va poursuivre cette exploration musicale. On va commencer déjà avec un premier morceau pour se mettre en jambe, et après je reviendrai expliquer un petit peu ce que c'est. Donc je vous propose d'écouter Yegele Tezeta de Mulatu Astatke. Radio G 101.5.
Imaginaire.
Je vais revenir un petit peu sur l'Ethio Jazz. Donc, c'est un mouvement musical qui est apparu en 1969 sous l'impulsion d'un jeune homme qui s'appelait Ama Echete. Un jeune producteur, en fait, qui a bravé le monopole de l'État en matière de production musicale. À l'époque, en Éthiopie, pour sortir des œuvres culturelles, du théâtre ou de la musique, il fallait avoir un label, un coup de tampon des autorités étatiques. Et lui, il s'est lancé tout seul, comme ça, comme un grand, en disant « on verra bien, j'aurai peut-être un avertissement, j'aurai peut-être quelques emmerdes, des amendes, mais je me lance ». À cette époque-là, l'Éthiopie a une tradition musicale, évidemment, comme tous les pays qui existent au monde, mais pas vraiment de tradition orchestrale. Il y a quelques chants, il y a quelques usages d'instruments, mais souvent isolés, des cornes, un peu voilà, comme les longs corps qui peuvent servir à faire de la musique, mais voilà. Et là, en fait, cette production que va lancer ce jeune homme va être à l'origine d'un mouvement qui va s'emballer. Ça va être à la base un mélange de jazz, de groupes de jazz, qui vont intégrer des sonorités typiquement africaines et orientales. Et petit à petit, la capitale de l'Éthiopie va devenir, va avoir le surnom de la Swinging Addis Abeba, l'équivalent de la Swinging London, mais africaine. Pensez donc, sur une dizaine d'années, il va y avoir plus de 500 disques qui vont sortir. Donc, pour un pays avec une tradition musicale, là encore une fois, plutôt traditionnelle, voilà, pour le coup, très peu orientée sur les enregistrements, c'est quand même une grande première. C'est l'époque des audaces vestimentaires, les pattes d'ef, les coupes afro, la mini-jupe, etc., en pleine Éthiopie. Les clubs fleurissent, une vie nocturne conséquente, une libération sexuelle des mœurs, des pensées. L'empereur Haïlé Sélassié, qui est un petit peu vieillissant, qui voit son règne un petit peu rentrer dans un côté réactionnaire, va au contraire laisser faire ces jeunes qui vont, selon lui, œuvrer à la modernisation du pays. Donc le producteur va être très peu ennuyé, il va recevoir, je crois, juste un avertissement pour la forme qu'il va ignorer, et donc les productions vont continuer. Et l'Ethio Jazz va former un petit peu la vitrine de la volonté progressiste du Négus. Cependant, sa chute, quand il est renversé par une junte militaire en 1974, va signer la fin, ou en tout cas le début de la fin, pour le mouvement de l'Ethio Jazz. L'Éthiopie s'enfonce dans ce qui va être une dictature, qui va durer 18 ans. Le couvre-feu étouffe l'embellie culturelle, annihile toute vie culturelle et festive nocturne, et la production discographique va suivre, puisqu'elle chute, jusqu'à disparaître en 1978. Donc je vais vous parler aussi un petit peu plus précisément de Mulatu Astatke. C'est quand même une très très grande figure de l'Ethio Jazz. Donc Mulatu Astatke est un des acteurs de ce mouvement. Il est atypique dans la production musicale éthiopienne. Il est également omniprésent, c'est un petit peu le parrain de cette scène. Musicien, arrangeur, compositeur, il a œuvré 30 ans durant au rayonnement de cette acid jazz un peu vintage, hypnotique et assez facile d'accès. Mulatu Astatke, c'est quelqu'un d'atypique puisqu'il est formé à l'étranger, en Angleterre d'abord, puis à New York, où inspiré par la musique des Caraïbes, le calypso, le merengue, il va intégrer des instruments, des congas, des formes musicales dans cet Ethio Jazz qu'il contribue à façonner, ce qui va avoir une influence considérable sur son œuvre et donc sur l'usage de ces instruments-là. Par exemple, les congas, je disais tout à l'heure, mais aussi les bongos ou alors le vibraphone. Mulatu Astatke, c'est quelqu'un qui est omniprésent, qui pèse très lourd sur la destinée de ce courant musical, qui très vite va l'incarner, en fait. Ça va être vraiment, ça va être très, très difficile pour les autres acteurs de ce mouvement de se poser, d'émerger, en fait. Hein. Il va un petit peu cannibaliser les choses.
Et quoi. Il l'incarne toujours aujourd'hui. Et
il l'incarne toujours aujourd'hui, oui, effectivement. Complètement. Et je vais finir après. Je vous propose qu'on écoute déjà un deuxième morceau. Donc le premier c'était Yegele Tezeta, donc avec ce petit mot Tezeta qui signifie un peu le blues, la nostalgie, le souvenir. Et là on va écouter un autre morceau qui s'appelle Yekatit. On se retrouve après. Thank you. Matua Statke, donc dans le morceau Yekatit.
En direct d'Addis Abeba.
Voilà, la swinging Addis Abeba.
Avec Angie.
Donc je parlais tout à l'heure de Mulatu Astatke et je parlais que c'était un artiste omniprésent qui va travailler 30 ans durant à la reconnaissance de la légitimité des Africains à jouer du jazz et plus particulièrement des Éthiopiens. Par-delà la reconnaissance de son talent et de sa position, l'Éthio-jazz reste une greffe fragile, une parenthèse dans l'histoire musicale du pays. Le manque de formation, d'enseignement, un côté avant-garde des musiciens, pardon, un côté avant-garde ne va pas non plus permettre au genre de perdurer sous des cieux politiques meilleurs après la chute de la dictature. Ça ne va pas être un mouvement qui va revenir en force. Ça va rester un peu une allumette qui s'allumait et qui s'est presque éteinte aussitôt. Et Mulatu Astatke va tourner beaucoup à l'étranger, essentiellement une carrière internationale. Il tourne encore. Il tourne beaucoup en France, notamment. C'est assez facile de le voir. Il fait souvent des festivals.
Ouais, il était au rendez-vous de l'Erdre il y a 2 ans, le festival de jazz gratuit qui se déroule à Nantes.
C'est une formation à ne pas rater. Il tourne notamment avec les Heliocentrics.
Groupe anglais, ouais.
Ouais, et je pense que c'est vraiment quelqu'un qu'il faut aller voir sur scène.
Il ne doit plus être tout jeune, hein.
Bah non, puisque justement, les débuts de l'Ethio Jazz, donc on dit que c'est vraiment les années 70. D'ailleurs, on en discutait en rantaine, ça fait vraiment penser au film des années 70. Article parlé de jazz franco.
Oui, moi ça m'évoquait quelques images de films de jazz franco. Toi, tu faisais un parallèle avec certaines séquences de Santo, les films
oui,
de J'adore Mexicain.
Le free jazz dedans, qu'il y a dedans.
Et en effet, ça rappelle vraiment ce genre d'ambiance.
Ouais, voilà, on est vraiment dedans, donc je pense que c'est quelqu'un qui doit avoir aujourd'hui plus de 40 ans de carrière, ou quasiment. Alors, c'est une musique qui a été récemment popularisée redynamisée, on va dire, par le film Broken Flower de Jim Jarmusch, qui utilise dans sa BO plusieurs morceaux rythmant l'odyssée du personnage incarné par Bill Murray, en fait, donc un personnage à la recherche de qui pourrait bien être la mère du fils qu'il se découvre. Il part à la recherche de ses différentes ex qui ont jalonné sa vie. Et son voisin le pousse un petit peu à faire ça, lui organise tout son voyage et lui prête un CD gravé à mettre dans les voitures de location où il y a donc 4 morceaux de Mulatu Astatke que vous retrouvez dans l'Éthiopique numéro 4. Ce qui me permet de faire une rapide transition avec la collection Éthiopique. Donc c'est une collection qui comporte 27 volumes à ce jour. Donc elle est complètement dédiée à cette musique. Elle a pour objectif, je sais pas combien de volumes ça prendra, mais d'explorer l'ensemble des productions qui sont encore disponibles, qu'on peut encore trouver. Des sons souvent de bonne qualité, même s'il y a un petit côté vintage, je sais que ça reste quand même extrêmement audible. Et dans chaque volume peut être consacré à un artiste ou à différents thèmes. Je reviendrai vous embêter les oreilles avec le volume 10 qui est consacré plus particulièrement au Tezeta, donc l'équivalent de l'Ethio Blues, le mot que j'évoquais tout à l'heure. Le 4, c'est spécial Mulatu Astatke, mais on trouve d'autres artistes, Mahmoud Ahmed, un grand nom, Klaun Gesese, Teshome Melektu ou Seifu Yohannes. Et dans chaque album, il y a un petit livret très détaillé, plein de photos, plein de détails, sur lequel je me suis essentiellement appuyé pour faire cette présentation. J'ai pas eu à chercher bien loin. Le livret d'Ethiopie 4 m'a tendu les bras avec toutes ces informations.
Et je crois qu'il y a une compilation, il me semble qu'il n'y a pas un double CD Best of Ethiopique.
Oui, alors il existe un Best of d'Ethiopique, je ne sais plus si c'est un simple ou un double, c'est très probablement un double, effectivement, qui va rassembler ces musiques-là, qui ne sont pas toutes instrumentales. Taoun Gesese, il chante. Mulatu Astatke chante aussi sur d'autres volumes.
C'est peut-être une bonne porte d'entrée si on ne sait pas trop par où commencer.
Voilà, il y a cette compile où il y a la numéro 4 qui est consacrée à Mulatu et popularisée par les films de Jim Jarmusch. Mais là encore, pour le coup, on fait un peu le jeu de se tourner uniquement vers cette personne, alors que je pense qu'il y a aussi beaucoup d'autres noms.
Oui, il y a Getachew Mekuria aussi, que j'aurais bien aimé passer aussi. Qui est passé aussi au rendez-vous de l'Indre il y a un an.
À ne pas rater. Et donc, c'est un mouvement qui fascine, qui a fasciné et qui fascine pas mal, puisque là, on va écouter, pour clore un petit peu ce focus, un groupe français, Akalewebe, qui tourne, que j'ai moi-même vu en première partie de Dr. Jones, qui me permet d'ailleurs de vous rappeler que j'avais oublié oublié de vous dire, Dr. John, dans son dernier album, a un morceau qui fait vraiment penser à de l'ethio jazz. Ouais. Donc je pense qu'il y a aussi un petit clin d'œil là-dessus. Un album travaillé par Dan Howard, avec Dan Warbard des Black Keys, où il y a un morceau vraiment très typé ethio jazz. Et est-ce qu'il y a un retour en force de cette musique aujourd'hui? Ce serait
intéressant. Oui, parce qu'il y a des jeunes là, donc comme Akali Oube, qu'on a pu voir à Trélazé il y a 2 ans aussi, il me semble, dans les concerts de l'été. Et puis il y a Arat Kilo aussi, je crois, en jeune groupe de petits blancs becs parisiens qui ont une trentaine d'années et qui font de l'ethio jazz, quoi.
Voilà. Et Akali Oube, c'est ça, hein, c'est assez délirant. Ils sont tous français ils jouent tous des instruments pour le coup traditionnels. On les voit changer régulièrement. Ils expliquent un petit peu d'où ça vient, quel est le nom de cet instrument, comment il fonctionne. C'est assez délirant.
Et ils composent leurs morceaux avec des titres en éthiopien, si j'ai bien compris.
Oui. Je sais plus s'il y a beaucoup de chants, mais
il faut au moins les titres des morceaux.
Complètement. Ça doit être en amharique, je pense.
D'ailleurs, Akali Oube, ça veut peut-être. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire?
Ah non, genre, je sais pas ce que ça veut dire. Ils l'ont dû le dire, ou ça doit être écrit dans l'album, mais j'avoue que j'ai oublié.
C'est pas un truc genre jolie fille ou quelque chose comme ça? Non. Parce que à une époque, tous leurs flyers, c'était des pin-up, en fait, sur leur pochette. Bon.
Donc là, on va s'écouter un de leurs morceaux, justement. Je crois que c'est un morceau de leur deuxième album, un morceau qui s'appelle Dodo. Mais ne vous endormez pas, parce que il y a d'autres choses à écouter encore. Donc voilà, une petite, un petit voyage à la swinging à Addis Abeba. Je reviendrai sur ce mouvement, je pense, en vous faisant écouter un ou deux morceaux du dernier album de Mulatu Estate qui est sorti en 2010. Et également en vous en écouter un petit peu de tes états, donc à suivre dans une prochaine émission. Je crois que on continue avec un petit peu de littérature pour
oui,
le coup,
parce
hein,
que
quand
c'est
même.
Une émission imaginaire, voilà. Hein, faut quand même pas exagérer. Donc moi je voulais juste vous signaler la sortie bah, toute fraîche hein, depuis hier en vente sur le site d'un éditeur qu'on aime beaucoup. Donc la sortie justement d'un livre qui a tout pour nous plaire, parce que dans l'ordre chronologique, ça a d'abord été l'avant-dernier numéro de la collection Gore,
oui.
Le 117.
Voilà.
Ensuite, il ressort chez un éditeur qu'on aime beaucoup, dont on a déjà parlé, qui est Rivière Blanche. Le livre en question s'appelle La chair sous les ongles et Cerise sur le gâteau. Il est l'œuvre d'un auteur qu'on aime également beaucoup, qui est Brice Tarvel. Alors c'est une réédition vraiment intéressante, non seulement parce que le livre d'origine est assez difficile à trouver, et d'autre part parce que le roman éponyme est additionné d'une quinzaine de nouvelles. Oui. Donc ça nous fait un gros volume de 300 pages. Donc c'est vraiment un bel objet avec une jolie couverture. Enfin, la couverture est très belle, mais un petit peu hors sujet, on va dire. Faut pas se fier à ces apparences-là. Elle est l'œuvre de Daniel Serra, qui avait déjà réalisé celle de Plaque chauffante, le grand retour de Nécro-Orient, autre vétéran de la collection Gore. Donc voilà, La chair sous les ongles de Brice Tarvel. Alors Brice Tarvel, c'est un auteur qui commence à avoir une carte de visite impressionnante. Oui, pêle-mêle, parmi ses romans, on peut citer Dépression, Le bal des iguanes, Silence rouge, qui était sorti au Fleuve Noir à la même époque que la chair sous les ongles. Plus récemment, il travaille sur la série des Harry Dixon.
Oui.
Pour Malpertuis, si je ne m'abuse.
Oui, c'est ça. Ouais.
Et il y a aussi la série de fascicules Nus sombrelieux au carnoplaste.
Oui,
j'en
voilà.
Oublie peut-être.
Chez Mnemos, le diptyque Se des eaux mortes.
Oui, en effet.
Puis il y a de la littérature jeunesse aussi, Morgan et le démon du grenier, je crois, si je ne m'abuse. Il est également scénariste de bande dessinée.
Scénariste de BD, Morte-Pierre.
Voilà, Morte-Pierre. Et
super série.
Et récemment, Harry Dixon. Alors, je peux pas vous dire quand est-ce que c'est prévu, quand est-ce que ça va sortir, mais il a travaillé sur l'écriture de scénario d'Harry Dixon.
Donc, quelqu'un qui a une production qui a tout pour nous plaire, donc
voilà.
Et qui d'ailleurs fera partie du recueil post-apocalyptique que
oui,
l'association
tout
va
à fait.
Inviter au mois de juin. Et qui fera en outre partie de nos invités, et on s'en réjouit.
Voilà. Alors pour retrouver ses productions, donc Brice Tarvel, puisque là il est en train donc de rééditer petit à petit certains de ses romans sous ce nom-là, mais sinon vous pouvez trouver ses œuvres sous le nom de François Sarkel. Mmh. C'est ainsi qu'il avait publié notamment Le Gore, ouais. La Vallée truquée aussi, des récits d'aventure qu'il avait fait. Il en avait un autre, Destination cauchemar aussi, chez Rivière Blanche.
Exact. J'avais oublié celui-là.
Donc voilà.
Est-ce qu'il a retravaillé là son
La chair sous les ongles? Je crois qu'il y a un chapitre supplémentaire. Je voudrais pas vous dire de bêtises. Mmh. On en profitera pour lui poser la question à Imaginaire.
On va être obligé de le racheter. En fait.
Voilà. Mais je crois qu'il y a un chapitre de plus. Ouais. Ouais, ouais.
Et là, on va faire comme dans le fanzine La Tête en l'air. Si tu mettais une note gore entre
La chair sous les ongles.
Mais il avait été chroniqué.
Ouais. Il avait été chroniqué. Alors, il y avait pas trop de sexe. C'est vrai que d'habitude dans les gores il y a du sexe et du gore. Donc il y avait pas eu trop de sexe. Par contre effectivement, la chair sous les ongles, je vous fais le pitch vite fait.
Oui.
C'est Gilbert Joussin qui est un fils à maman tranquille chez lui, qui vit à Reims dans sa petite banlieue avec sa vieille maman. Et il a une particularité physique, il ne digère que de la viande de cochon blanc, c'est-à-dire de la viande humaine. Le reste le tuerait, le rend malade. C'est impossible pour lui de manger quoi que ce soit d'autre. Donc sa mère le fournit régulièrement en viande. Il ne sait pas d'où, enfin il s'en préoccupe pas, c'est maman qui ramène à manger, ça suffit quoi, hein. Il sort pas beaucoup de chez lui, il est pas tôt un peu, et un jour sa vieille maman elle meurt, et donc il se retrouve tout seul, et quand il commence à avoir l'estomac qui gargouille, et il a pas d'autre choix que de sortir de chez lui pour trouver sa nourriture. Et voilà, après c'est un personnage d'ailleurs qu'on retrouve dans Le bal des iguanes, édité chez Locomodo, qui est sorti très récemment. Donc bon, en vous disant ça, je vous spoil un petit peu la fin de La chair sous les ongles, j'en suis désolé, mais on le retrouve dans une maison de retraite. Oui, voilà, ce serait possible. On le retrouve dans une maison de retraite toujours dans la région de Reims, hein. Brice écrit beaucoup de choses qui se passent dans la région où il vit. Et là dans une maison de retraite assez particulière, hein, où chaque pensionnaire a un petit peu ses secrets.
Mmh. Ouais, qui met drôlement en appétit. Bon, on va faire une, ouais, on va une vraie transition là pour le coup, parce qu'il y a vraiment pas grand chose à voir avec ce que je vais vous proposer d'écouter maintenant. Alors je vais vous proposer deux morceaux assez courts d'une formation qui est devenue très rapidement unipersonnelle, un groupe allemand qui s'appelle Pierrepoint, qui est plus tellement en activité. Alors Pierrepoint avait sorti un premier CD, à l'époque il y avait deux personnes impliquées, puis rapidement l'homme derrière les machines a tout simplement viré son chanteur, parce que bon, ses parties prises ne lui correspondaient pas, il trouvait ça trop gothique, ça l'agaçait un petit peu. Et donc très très vite il a fait des albums tout seul, et ça a changé radicalement d'esprit. C'est devenu là vraiment beaucoup plus électro-industriel, et comme vous allez pouvoir le constater, donc avec deux morceaux extraits de son premier véritable album, donc Ibon, et puis ensuite un morceau qui s'appelle Idolized.
bien, on a une transition toute rêvée avec certaines sonorités un petit peu vintage SF. Qui nous permettent d'enchaîner avec la rubrique de Patrice, puisque vous n'aurez pas son générique. Et voilà, c'est
non,
tout.
Il est privé de générique. De le chanter.
Voilà. Il devait le chanter, Brice Desjolais.
Ben oui.
Il n'a pas voulu.
Ben oui, mais il faut s'entraîner avant. Bon, c'est pas vraiment de science-fiction dont je vais vous parler, mais de distance dans l'univers. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas vraiment imaginer, rien que quand on lève la tête par une nuit sans lune, on aperçoit des petits points lumineux qu'on appelle des étoiles. Et si la pollution n'est pas trop importante, on peut aussi voir une sorte de traînée laiteuse qui est la Voie lactée. En fait, c'est notre galaxie vue par la tranche. Eh bien, est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question de savoir à quelle distance vous voyez tout cela à l'œil nu ? Et question subsidiaire, quand vous apercevez dans des magazines spécialisés ou même à la télévision des images de nébuleuses de galaxies que vous ne voyez pas à l'œil nu, à quelle distance cela peut bien-il être ? Eh bien, on va faire une petite expérience intéressante pour y arriver. On va faire des expériences de réduction, pas comme les chasseurs de têtes, mais un peu comme un constructeur de maquettes. Donc, première étape, on va imaginer que le Soleil est un melon. Bon, même si c'est pas la saison des melons, hein, on fera comme si. Donc le Soleil est un melon, il mesure 10 cm de diamètre. Et à cette échelle, la Terre, elle ne fait qu'un millimètre de diamètre, elle se trouve à 11 mètres du Soleil.
C'est même pas un petit poids, quoi.
Ah, c'est vraiment très petit. Mais 11 mètres du Soleil, vous constatez qu'il faut déjà une grande pièce pour commencer à faire la maquette. Hein. La Lune, c'est une petite bille d'un quart de millimètre qui se trouve à moins de 3 cm de la Terre, la porte à côté. Mais si on veut inclure dans cette maquette l'ensemble des planètes du système solaire, jusqu'à Pluton, enfin même si Pluton aujourd'hui n'est plus une planète.
Ouais,
enfin,
ouais. Bon, j'ai lancé une pétition d'ailleurs, il y en a marre.
T'as raison, de toute façon pour la démonstration on s'en fout un peu. Hein, donc Pluton est quand même à 424 mètres du Soleil melon. Hein. C'est quand même pas tout à fait. J'espère que vous avez un grand champ derrière chez vous pour faire tenir toute la maquette. Alors, vous apercevez déjà que si vous parcourez la distance Terre-Soleil à cette échelle en quelques secondes, il faut quand même marcher quelques minutes pour atteindre Pluton. Donc vous avez compris le principe, on passe à la deuxième étape, on prend ce système solaire et le système solaire est un melon.
Hein, ouais.
Donc voilà.
Ah oui.
Donc là,
il y a du porto dedans, moi, tout.
Voilà. Donc inutile de chercher la Terre dans cette nouvelle maquette, elle est plus visible à l'œil nu. Hein. Le Soleil ressemble à une sorte de petite bille brillante de 3 mm. Hein. Et bon, alors on va quand même parler d'une mesure qui est couramment utilisée en astronomie, c'est l'année-lumière. Bon, l'année-lumière, c'est une mesure de distance, je vous l'apprends, petit Galapia, et non pas de durée, c'est pas parce qu'il y a année dedans. Une année-lumière, c'est la distance parcourue par la lumière en une année, à la vitesse de 300 000 km par seconde à peu près. Et ça fait à peu près, cette année-lumière, elle représente 9 000 milliards de kilomètres.
C'est pas mal.
Donc à l'échelle de normale, hein, la Lune se trouve à une seconde lumière de la Terre. Donc ça veut dire que la lumière met une seconde pour faire la distance Terre-Lune. Et le Soleil à 8 minutes lumière. Et Pluton à 5 heures lumière.
Ouais.
Donc, si vous vouliez contacter un satellite qui se trouverait en orbite autour de Pluton, le signal mettrait 5 heures pour lui parvenir et la réponse 5 heures aussi. Donc, il y aurait 10 heures qui s'écouleraient finalement entre chaque communication. Donc, ça fait déjà un peu loin. Mais, dans notre première maquette, la première maquette où le Soleil était un melon, l'année-lumière représentait en fait 680 kilomètres. Et dans la deuxième, là on a réduit le système solaire à la taille d'un melon, en fait ça fait plus que 160 mètres. Bon. Et l'étoile la plus proche de notre Soleil, qui se nomme Proxima du Centaure, se trouve, à l'échelle normale, à 4,22 années-lumière, soit, à l'échelle de la première maquette, ça fait quand même déjà 2800 kilomètres.
Et quand même.
Hein, ça fait quand même pas mal. Hein. Ça rigole plus là. Hein. Et ça fait d'ailleurs quand même pas mal de vide pour atteindre notre première étoile. Hein. Et dans la deuxième maquette, là, celle où ça fait plus que 677 mètres. Bon, ne lâchez pas prise, le voyage vient à peine de commencer. La Voie lactée, donc notre galaxie qu'on appelle la Voie lactée, c'est un ensemble qui contient plus de 200 milliards d'étoiles. Bon, ça fait beaucoup, mais le diamètre de la galaxie, c'est 90 000 années-lumière, et il y a donc de la place pour mettre tout ça. Dans notre maquette actuelle, la Voie lactée fait 14 000 km de diamètre. On peut même pas faire à l'échelle, si le système solaire était réduit à la taille d'un melon, on pourrait même pas faire tenir la maquette avec la galaxie sur notre Terre.
Ah, quand même.
Ça fait quand même pas mal. Hein. Et à cette échelle aussi, la galaxie d'Andromède, qui est quand même pas très loin, elle est à 25 600 km. Bon. Alors, on va encore réduire tout ça parce qu'on veut quand même voir un petit peu plus loin. Et donc, on va réduire la Voie lactée à la taille d'un melon.
Hein, décidément.
Hein, oui. Alors là, là, les étoiles sont tellement petites que vous ne distinguez même plus qu'un disque lumineux. Et donc, là, vous voyez un peu partout d'autres disques de même nature, hein, d'autres galaxies qui remplissent cette troisième maquette. Donc, reprenons la galaxie Andromède, qui est normalement visible à l'œil nu par très beau temps. Eh bien, dans cette maquette, elle se trouve à 3 mètres. Hein, c'est pas très loin. On peut très facilement, dans cette maquette, marcher d'une galaxie à l'autre. Hein. Bon, dites-vous quand même que votre marche à travers cette troisième maquette représente une vitesse d'à peu près 2 millions d'années-lumière par seconde. Hein, si vous voyez, si je marche dans cette maquette-là, ça me fait cette vitesse-là. Et dans un volume de 11 mètres de diamètre, vous allez trouver l'amas local. C'est en fait un groupe de galaxies voisines de la nôtre qui orbite autour d'un centre de gravité commun. Et aussi loin que porte votre regard, c'est des galaxies partout, de formes, de tailles, de couleurs différentes. Et là, vous commencez à voir que l'univers, c'est vraiment très, très, très grand. Alors, où se trouve la fin? Alors ben là, je vais vous dire, ça, on l'ignore encore. Et il n'y a d'ailleurs pas forcément de fin. Hein. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails astrophysiques.
Il n'y a pas un restaurant au bout, non? Le restaurant de la fin?
Le dernier restaurant avant la fin du monde, oui, mais ça, on en parlera avec Douglas Adams la prochaine fois. Et donc, je vais simplement vous indiquer à quelle distance se trouvent les plus lointaines galaxies connues à l'échelle donc de cette troisième maquette. Eh bien,
donc c'est la Voie lactée dans un melon, la troisième.
La Voie lactée dans un melon. Et bien là, il vous faudra quand même parcourir 51 km pour atteindre la plus lointaine galaxie observable. Alors, je vais vous dire, la prochaine fois que vous lèverez la tête vers les étoiles, évitez quand même d'avoir le vertige.
Donc effectivement, si un jour on veut s'y rendre, il va falloir aller plus vite que la lumière.
Et ce qui, dans les connaissances physiques actuelles, est impossible.
D'accord. Bon, tant pis, alors on n'ira pas voir la proximité.
Mais la science-fiction trouve d'autres moyens, justement, de contourner la vitesse de la lumière en passant par des espaces courbes.
Ouais.
Voilà.
Très bien. Bon, à bientôt, on va émettre sur Proxima du Centaure très bientôt, je pense. C'est une de nos émissions.
Message de Frolix 8.
4 années pour émettre et 4 années pour avoir des protestations des extraterrestres qui disent qu'est-ce que c'est que ce truc de ouf.
Bon, en attendant, vous pouvez réécouter les émissions sur notre page SoundCloud et puis sur YouTube aussi, c'est ça, ou Dailymotion.
Dailymotion.
On peut retrouver effectivement sur le site Phénomène J, ou alors carrément, j'ai fait une compilation sur le blog imaginaire, imaginaire.blogspot.fr, où là vous allez retrouver tous les liens qui permettent d'amener directement non seulement à nos émissions, mais pendant que vous y êtes aussi au numéro de La Tête en l'air. Il y a quelques informations concernant Imaginaire 2013 qui a, je le rappelle,
c'est
lieu
bientôt.
Du 6 au 9 juin. Très bientôt.
Dans un mois, et sur ce blog, vous avez d'ailleurs les sommaires des deux anthologies qui sortiront à cette occasion, Total Chaos et Ripostapo.
Et c'est mis à jour à peu près régulièrement pour vous tenir au courant de l'avancement des travaux.
Tous les 4 ans, puisque le gars qui s'occupe du blog est sur Proxima du Centaure.
Absolument.
Si vous voulez plus de réactivité aussi, il y a notre page Facebook.
Oui, une page Facebook imaginaire. Et là encore, il y a des liens sur les émissions à venir, actuelles.
On peut télécharger pendant un mois et avoir en streaming après.
Ah, on est des pros de la com.
Ah bah complètement. Donc on va écouter un petit morceau. Je vous propose un morceau de... C'est le morceau qui termine?
Non, quand même. Si.
Ah non, faut écouter Rob Zombie derrière.
Oui, merde, il dure 5 minutes 42 quand même.
Bon, on va le... on en écoute au moins un petit peu.
Ouais.
Donc, un morceau de Coco Robichaud. Alors, Coco Robichaud, qui c'est? C'est un bluesman de la Nouvelle-Orléans qui a un pseudo, qui en fait, c'est le pseudo du loup-garou dans les croyances de la Nouvelle-Orléans. Coco Robichaud, qu'on peut d'ailleurs entendre dans une des chansons du premier album de Dr. John. Mm-hmm. Alors, fait-il mention au loup-garou, fait-il mention à son ami le bluesman? Je ne sais pas, j'ai pas eu l'occasion de lui demander. Coco Robichaud, en fait, c'est quelqu'un qui a dû jouer de la musique probablement toute sa vie, mais qui a pas fait d'album tant que ça. Il était vraiment dans de la musique live, vivante, au quotidien, dans la rue, dans les bars, etc. Et il apparaît d'ailleurs dans la série Trémé de HBO.
Ah, ouais.
Une série excellente que je recommande chaudement sur la vie après Katrina.
Oui, qui est fait par les gens qui avaient fait The Wire.
Voilà, c'est ça. Avec une tripotée de guest stars de blues et de jazz, puisqu'on retrouve justement Dr. John, on retrouve Alain Toussaint, on retrouve Coco Robichaud, qui a joué dans les deux premières saisons et qui est décédé en 2011, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et il y a d'ailleurs quelques images sur YouTube ou Dailymotion, pour le coup, de ses funérailles, des funérailles vraiment traditionnelles avec la fanfare qui déambule dans toute la ville, comme on peut le voir d'ailleurs dans la série Trémé. Et donc voilà, Coco Robichaud qui, dans la série justement, passe à la radio en live et très très branché chez Vaudou sacrifie un poulet en pleine audition, ce qui fait virer DJ Davis qui l'avait écouté. Est-ce que c'est inspiré de faits réels? En plus, c'est complètement probable, sachant que cette série brasse et s'amuse avec toute la mythologie autour des jazzmen et des bluesmen. Donc là, je vous propose un morceau de son album Hoodoo Party qui s'appelle In the Wee Wee Hours. Est compté, donc on va abréger Coco Robichaud. On en repassera un morceau, d'ailleurs j'ai un nouvel album moi qui va arriver bientôt chez moi, je reviendrai avec un morceau entier, on vous jure. Vite fait, quelques éléments, la sortie de Lord of Salem.
Oui,
on le verra pas en salle.
On va conclure avec Rob Zombie, un extrait de son dernier album.
On le verra pas en salle.
On ne sort pas en salle en France.
On ne sort pas en salle chez nous.
On est privé de Lord of Salem.
Direct en DVD, au mois d'octobre, la date a été annoncée par le distributeur français 7-7, qui est la vitrine de Metropolitan chez nous. Et donc, faudra attendre la rentrée, mais au moins on a l'assurance d'avoir une belle édition DVD, parce que c'est un éditeur sérieux qui fait toujours de très beaux produits. C'est eux qui avaient déjà sorti La Maison des Mille Morts et Devil's Reject, donc on peut espérer. Mais il n'y a plus qu'à s'armer de patience.
Et donc, on se retrouve dans 15 jours pour une spéciale Jazz Franco, c'est ça? Je le dis, allez, je balance.
Qui est décédé il y a 2 avril.
Début mois. Le dernier. Et donc, on se quitte avec le tout dernier album de Rob Zombie.
Avec une très belle édition aussi, une pochette super colorée, à moitié.
Et l'anticulaire, donc moitié 3D. Donc, l'album, c'est Venomous Rat Regeneration Vendor. Et on se quitte avec le titre qui s'appelle The Girl Who Loved the Monsters. Et écoutez bien, il y a des samples comme d'habitude avec Rob Zombie, mais en français.
Ah,
la classe. Got a black shoelace.
hungry. Naturally, they will not kill the members from their own tribe, but in fear of dying, they will kill the weakest.
Radio G. 101.5 FM.
Stage to run to, finally home, confined, confronted, could go both ways, it brought us closer, to miss the stage, confined, confronted, bear with me and I'll stand there before you, bear with me and I'll stand there before you, bear with me and I'll stand there before you, bear with me and I'll stand there before you.
They say there's dolphins in Venice, I say I'm finally home. They say there's dolphins in Venice.